Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jeremy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec notre grand ami Philippe Bilger. Bonjour Philippe.
Bonjour mon cher Jeremy.
Philippe, vous venez d'écrire sur votre blog une histoire concernant, à propos d'une histoire concernant le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti. Quelle est cette histoire ?
C'est une histoire qui, en fait, remonte de loin. C'est-à-dire que le biais auquel vous avez la gentillesse de faire allusion s'appelle un garde qui ne protège pas. Il faut accepter l'idée que Emmanuel Macron, probablement conseillé par son épouse, a un jour décidé de nommer garde des Sceaux un avocat exceptionnel, mais qui était aussi peu fait pour être ministre que moi-même pour être modéré dans la vie. Et en réalité, après des débuts calamiteux, ce garde des Sceaux, sous l'influence de certains directeurs de cabinet, s'est amélioré, c'est-à-dire que il s'est contenté de parler de matérialité, d'augmenter les budgets, de s'occuper de l'intendance judiciaire en quelque sorte, tout en cultivant son obsession de la lutte anti-Rassemblement national. Il y a eu un moment d'accalmie où on pouvait penser qu'il avait compris qu'il était inutile de s'en prendre sans arrêt aux magistrats, qui d'ailleurs, eux-mêmes, ont été très méritants, parce que ils ont tout fait pour le supporter, notamment quelque chose qui m'a un petit peu choqué, c'est le fait qu'après l'acquittement devant la Cour de justice de la République, qui était un acquittement juridiquement absurde, le procureur général près de la Cour de cassation a décidé de ne pas interjeter appel en disant qu'il souhaitait de l'apaisement. On ne lui demande pas de l'apaisement au procureur général. Il doit faire ce que, je dirais, son devoir lui commande de faire. Et puis, en réalité, cette impression d'accalmie est trompeuse, puisqu'on a vu notamment à propos de la déclaration de quelques magistrats de Marseille et dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, notamment le procureur général, à quel point la relation crue, forte, terriblement réaliste de la part de ces magistrats sur la réalité marseillaise dans tous les domaines, aussi bien au niveau des enquêtes qu'au niveau du monde pénitentiaire, qu'au niveau des pratiques d'avocats, a suscité, on peut le dire, la colère du garde des Sceaux, qui a par exemple reproché au président de Marseille d'avoir parlé de plan Marshall, qui a tensé le procureur de Marseille parce que, n'est-ce pas, devant ses parquetiers, parce qu'il avait été trop pessimiste. Et derrière tout cela, ce qui est exaspérant, c'est que il y a deux choses. C'est d'une part qu'il reproche profondément à ses magistrats d'avoir préféré la vérité crue et terrifiante d'une à Marseille au lieu de parler, paraît-il, de son bilan qui serait exceptionnel parce qu'il aurait augmenté le budget de 60%. Autrement dit, il aurait été plus important pour ses magistrats de satisfaire la vanité du garde des Sceaux que de répondre à l'invitation de la commission sénatoriale en disant absolument la vérité. Ils auraient dû se taire ou au moins euphémiser. Et le second point qui est scandaleux, c'est qu'il a repris son antienne classique à chaque fois qu'il ne sait pas quoi dire, qu'il ne sait pas comment argumenter. Il reproche, Jérémy, au magistrat en question d'avoir donné du grain à moudre au Rassemblement national en oubliant de louer ce formidable bilan qui serait le sien. Alors, Comment peut-on juger un tel garde des Sceaux qui, plutôt que de rendre hommage à ces magistrats qui, sous son autorité, ont eu un comportement parfaitement digne et sincère, préfère leur jeter dans les jambes une instrumentalisation partisane parce que, n'est-ce pas, ils seraient en réalité les vecteurs du Rassemblement national, ce qui est une absurdité, un double point de vue, judiciaire parce que c'est faux, et politique parce qu'en réalité c'est le contraire. C'est de cacher une réalité nationale, et en l'occurrence marseillaise, qui fait monter le Rassemblement national. Donc, c'est lamentable de la part du garde des Sceaux, et c'est une grave rechute de sa part, alors que depuis quelque temps, il paraissait s'être calmé en oubliant son idéologie d'avocat. Et d'ailleurs, vous aurez noté également, Jérémy, qu'il a reproché aux magistrats d'avoir révélé les pratiques pour le moins équivoques de certains avocats, parce qu'il aurait reçu des plaintes de certains bâtonniers. Mais il est garde des Sceaux, on ne lui a pas demandé d'être le gardien des avocats, il l'était hier, d'accord ? Mais il ne l'est plus. Et donc, il y a derrière tout ça, et le comble, vous l'avez un peu évoqué, c'est que tout cela, malgré le caractère assez scandaleux de cette absence de soutien de la part de leur ministre à l'égard des magistrats, est validé par l'Élysée. Autrement dit, il y a quelque chose de très choquant dans le fait que nous avons au sommet du pouvoir un clan qui crée un hiatus constant et permanent entre l'autorité régalienne, entre ce que ces êtres-là devraient offrir au peuple et, en réalité, leur attitude de, j'allais dire, de désinvolture, voire de cynisme à l'encontre d'une magistrature qu'ils ne parviennent pas à apprécier comme ils le devraient.
Eh bien, Philippe, il me semble que nous avons ici deux problèmes. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de dauber sur les magistrats, je m'excuse pour le mauvais jeu de mots provençal, dauber sur les magistrats, et là, les magistrats ont l'opportunité de dire leur vérité, et on les accuse de trahir, en quelque sorte, ce qui me semble scandaleux. Et ensuite, on a un président qui n'hésite pas à s'immiscer dans tous les dossiers, à des moments où un président digne du nom devrait prendre de la hauteur.
Vous avez, Jérémy, raison, il y a plusieurs interrogations pertinentes dans votre question. J'aurais presque envie de dire que dauber sur les magistrats est devenu un sport national en France. De la part aussi bien de l'élite. Regardez par exemple des gens que je ne déteste pas par ailleurs, bien au contraire, Finkielkraut ou Éric Zemmour n'ont pas de préoccupation plus impérieuse que de critiquer la magistrature, en réalité dont ils connaissent très peu le fonctionnement. Et en même temps, le peuple lui-même, et comme lui est excusable, ne connaissant pas la réalité judiciaire, n'est pas loin de se plaindre aussi de la magistrature. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez raison, nous avons cette magistrature marseillaise, pour aller vite, qui est convoquée par une commission sénatoriale et qui dit, évidemment, la vérité sur une réalité dont elle constate l'effrayante image depuis plusieurs années. On peut d'ailleurs lui reprocher à cette magistrature, mais c'est tout à fait autre chose que le procès scandaleux qu'a fait Éric Dupond-Moretti, d'être intervenu trop tard, parce que cette magistrature n'a pas découvert hier la réalité de ce qu'elle décrit. Ça existait avant, et peut-être ont-ils eu peur, spontanément, librement, de développer un point de vue aussi pessimiste. Toujours est-il qu'ils l'ont fait dans des conditions non pas courageuses. Il ne faudrait même pas parler de courage lorsqu'une profession capitale accomplit son devoir. Ils l'ont fait parce qu'ils devaient le faire. Ce qu'on pourrait leur reprocher en réalité, c'est au fond, après avoir fait un constat qui est assez terrifiant sur la réalité marseillaise, notamment le procureur de Marseille, il a dit avec beaucoup de crudité la réalité qu'il avait à affronter avec son équipe. On peut peut-être leur reprocher, mais on aurait pu le faire avec courtoisie et intelligence, en ménageant l'autorité naturelle qu'un garde des Sceaux doit avoir sur ses troupes. On aurait pu leur dire, vous auriez dû associer à votre discours lucide et pessimiste, peut-être un élan d'enthousiasme, une sorte d'espérance qui aurait montré aux citoyens qu'en réalité, tout n'était pas perdu, que les jeux n'étaient pas faits, qu'en réalité, vous étiez évidemment sur le front marseillais en train de vous battre en permanence et que vous ne désespériez pas de la victoire un jour. C'est cela qu'on pourrait leur reprocher, mais ça n'a rien à voir avec le reproche scandaleux et narcissique que le garde des Sceaux leur a fait, comme s'ils avaient, avant de dire la vérité, à rendre hommage au bilan surévalué par lui-même du garde des Sceaux. Et donc, derrière tout cela, Jérémy, il y a le fait que nous avons un garde des Sceaux qui est évidemment sans arrêt approuvé par le président et son équipe, et qui se sent totalement conforté, notamment lorsqu'il se permet de faire des semonces totalement choquantes à des magistrats dont il devrait être le protecteur naturel. Lorsque nous avons un Gérald Darmanin qui soutient, mais férocement et vigoureusement sa police, nous avons un garde des Sceaux qui, il faut le dire, ne protège pas ses magistrats, entendons-nous. Le garde des Sceaux n'a pas à les protéger, je dirais, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il ne fasse pas. Mais, en l'occurrence, il aurait dû être plutôt fier de ce réalisme et de cette audace dans le verbe et dans l'affirmation de leur pensée que critique et dénonciateur.
On a l'impression que le garde des Sceaux et l'Élysée leur tactique aujourd'hui, c'est de chercher des boucs émissaires pour leurs propres échecs.
Absolument. D'ailleurs, il y a une méconnaissance absolue de la part du président et peut-être de conseillers autour de lui de ce qu'est véritablement la réalité judiciaire. Les présidents ont été rarement des soutiens de la magistrature. Mais je me reproche aujourd'hui peut-être d'avoir exagéré la dénonciation de Nicolas Sarkozy, alors que on peut tout lui reprocher à Nicolas Sarkozy, mais il ne faisait pas, j'allais dire, des coups en douce. Son offensive, sa détestation, ses critiques étaient présentées publiquement et ça n'était pas une sorte de président chafouin qui se dissimulait et qui, on avait compris qu'il n'aimait pas la magistrature parce qu'elle incarnait pour lui probablement un corps qui l'empêchait d'agir en rond, quoi. Tandis que chez Emmanuel Macron, c'est plus subtil, c'est plus jésuitique, c'est plus apparemment nuancé, mais en réalité, derrière, je pense qu'il y a plus de condescendance, plus de mépris vrai à l'encontre de la magistrature que de la part d'anciens présidents qui ont pu commettre des erreurs, qui n'ont peut-être pas honoré la magistrature comme elle aurait dû l'être, mais qui n'avaient pas cette attitude que je trouve très équivoque et très choquante d'Emmanuel Macron. Comprenez bien, Jérémy, que je ne suis pas non plus de ceux qui considèrent que la magistrature n'a aucune responsabilité dans la piètre image que les politiques ont d'elles-mêmes. Ils y ont mis du leur aussi. Mais n'empêche que, dans une démocratie digne de ce nom, on ne peut rien espérer si, au plus haut niveau de l'État, il n'y a pas un authentique, j'allais dire, respect pour un corps qui est fondamental pour la démocratie.
Et Monsieur Macron, il a trouvé l'Élysée dans un certain état quand il est devenu président, un certain état avec une certaine image. Il va laisser l'Élysée dans un autre état. Est-ce qu'il y aura eu amélioration ?
Je ne crois pas. Et là, Jérémy, c'est une question extrêmement vaste puisqu'en réalité, à bien l'entendre, elle implique une analyse des rapports que les présidents ont avec les citoyens. Et là, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je suis très sensible dans l'ensemble des activités intellectuelles, médiatiques et politiques à ce que j'appellerais la classe ou on pourrait même dire l'allure présidentielle. Certes, la présidence n'est pas la seule fonction qui doit se contraindre à une certaine tenue, à une tenue exemplaire. Mais on sait bien que c'est de moins en moins le cas. Et j'essaye de voir pourquoi. Il me semble déjà que il y a l'ombre immense du général de Gaulle qui sert en réalité de paravent. Je veux dire par là, c'est que quand on a rendu hommage à la tenue, à l'exemplarité du général de Gaulle dans la gestion, par exemple, de l'intendance privée ou publique à l'Élysée, rappelez-vous, il payait lui-même l'électricité personnelle, il payait les goûters pour les enfants, les petits-enfants. Donc, il me semble que lorsqu'on a rendu hommage au général de Gaulle, on se considère presque débarrassé du souci d'avoir soi-même à montrer une éthique publique. Et donc, le général de Gaulle sert en réalité de paravent et de bouclier. On a rendu hommage et après, ça n'a plus d'importance. On peut se comporter comme on veut. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que les politiques et les présidents, et Nicolas Sarkozy en particulier, il n'a pas été le seul. Malheureusement, Emmanuel Macron a fortement emboîté le pas sur ce sentier-là, considère à tort que les Français veulent de la simplicité qui irait jusqu'à la vulgarité. Les Français veulent de la proximité, mais qui n'a rien à voir avec une espèce de clientélisme, de familiarité. Ils veulent un rapport profondément républicain avec leur président, mais ils veulent pouvoir l'admirer parce qu'ils veulent pouvoir considérer qu'il est un exemple aussi bien dans les attitudes superficielles que bien sûr dans les engagements profonds. Je ne dis pas, alors il y a ce qui relève de la politique en profondeur et qui peut être désavoué le moment venu dans les élections. Mais là, je parle de l'image quotidienne qu'un président doit offrir à ses concitoyens, aussi bien sur le plan de la forme que sur le plan du fond. Un président n'a pas à parler grossièrement, même pour se faire comprendre. Un président n'a pas à inviter à l'Élysée des histrions qui viennent se comporter à son égard comme s'il était un copain, parce que le président à ce moment-là, et Macron en l'occurrence, ne comprend pas qu'en réalité, les citoyens veulent pouvoir être fiers de l'homme qui les représente. Et lorsqu'on voit McFly et Carlito à l'Élysée, ou qu'on le voit bien avant, encadré par deux personnalités dont l'une fait un doigt d'honneur et a l'air de se moquer du président élu par tous les Français, c'est une honte. Lorsque le président dit qu'il voudrait emmerder les Français, c'est une honte, on comprend bien pourquoi il le dit, mais un président est tenu à une exemplarité constante, à une rareté de parole pour précisément être respecté dans le comportement qu'il a. Lorsqu'on voit la manière dont Emmanuel Macron, gangrené par un narcissisme considérable, mêle tout et son contraire, n'a pour obsession que de surprendre, choisit les personnalités non pas en raison de leurs compétences, mais pour provoquer et pour surprendre. On choisit Nakamura pour chanter Édith Piaf. On choisit un garde des Sceaux qui a toujours détesté la magistrature. On se montre dans une attitude ridicule comme boxeur contre un adversaire virtuel, alors qu'on n'est pas capable de se battre contre les dangers trop réels que connaît la France. Derrière tout cela, il y a une sorte de propension à la vulgarité, à la banalisation, parce qu'on n'est plus capable de porter haut le pavillon de l'allure française. Et je crains que demain, même si nous avons et nous aurons forcément un autre président, j'espère que, quel qu'il soit, il saura, mais ce sera extrêmement difficile de remonter le courant, parce qu'en réalité, il faudra accepter de considérer lucidement ce que souhaitent les Français. Ils rêveraient, mais on est incapable de le faire, d'une simplicité majestueuse à la Scandinave. C'est étrange comme ces pays parviennent, dans une simplicité totale, à faire respecter ce qu'ils sont. Probablement parce qu'ils se réservent, ils s'économisent. Il ne se montre pas tout le temps dans n'importe quelle posture. Et là, je ne parle pas, mon cher Jérémy, je ne parle que d'Emmanuel Macron. Je pense que son épouse a un rôle décisif et délétère sur beaucoup de plans, puisque elle s'occupe de politique et qu'en réalité, je critiquais Carla Bruni-Sarkozy parce que je la jugeais trop présente à l'époque, mais c'est rien par rapport à Brigitte Macron.
Eh bien, Philippe, mon cher Philippe, merci de ces paroles aussi claires que lumineuses, et merci aussi de ce jugement tout à fait juste.
Merci, Jérémy, vous êtes un homme qui sait poser les questions.
Merci à tous nos auditeurs, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.